Réanik Ben Shivim Shana, j'ai l'air d'avoir 70 ans. Velo Zachiti, mais je n'ai pas eu le mérite. J'étais amer que grâce à moi, on dise Yetziat Mitzrayim Balelot. On parle de la sortie d'Égypte dans la nuit. Ad chez Dansha Benzoma. Jusqu'à ce que mon collègue Benzoma fasse une dracha à partir de laquelle on a pu déduire qu'on mentionne la sortie d'Égypte dans la nuit. J'aurais voulu dire Rabbi Elazar ben Azaria, mais j'ai pas trouvé d'argument convaincant. Le sujet, il a été discuté. Moi, j'étais d'avis qu'il fallait le mentionner, mais j'ai pas réussi à convaincre les autres. Et donc, on le disait, on ne l'aurait pas dit si ce n'était Benzoma qui avait construit un raisonnement à partir duquel on a pu déduire qu'il fallait le mentionner. Alors, le sujet ici de cette discussion, est-ce qu'on mentionne la sortie d'Égypte la nuit ou pas? C'est pas du tout est-ce qu'on va le mentionner dans la Haggadah. Le sujet c'est est-ce qu'on dit le soir le troisième paragraphe du Shema? Il y a trois paragraphes du Shema. Le matin, il n'y a pas de problème, on dit les trois paragraphes. Le soir, le troisième paragraphe, de quoi parle-t-il? Donc c'est le paragraphe des tzitzit. Vous ferez des tzitzit à vos vêtements. Et la deuxième chose qui est mentionnée dans ce paragraphe, c'est la sortie d'Égypte. Faire des tzitzit, c'est pour qu'on se souvienne, qu'on voit les tzitzit et qu'on se souvienne des mitzvot. Et du coup, c'est un texte qui a sa place de jour, parce que les vêtements de nuit, même s'ils ont quatre coins, aux vêtements de nuit, on n'a pas d'obligation de mettre des tzitzit. Parce que c'est marqué « Uri temoto ». Vous verrez le fameux fil de trellet, le fil d'azur, et vous vous souviendrez des mitzvot. Et le soir, dans la nuit, on ne voit pas. Et donc, il n'y a pas de mitzvah de mentionner ce troisième paragraphe, puisqu'il parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la nuit. Et le problème de la sortie d'Égypte, c'est que dans la nuit représente l'exil. La nuit représente l'esclavage. Et par conséquent, le soir, la nuit, c'est pas le moment de mentionner la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est la lumière. Au moment de la sortie d'Égypte, on y voyait, c'était la nuit, c'est vrai, mais on y voyait comme en plein jour. Je vous rappelle qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans cette nuit de sortie d'Égypte. Il y a une mitzvah dans la Torah de copier Hachem. C'est-à-dire, c'est marqué « Ma'u rachum afata rachum ». De la même manière qu'Hachem est la tendresse, toi aussi tu dois l'être. De même qu'Hachem est plein de grâce, tu dois l'être également. Au fond, les choses qui sont dites au sujet d'Hachem dans la Torah, elles n'ont pas pour but de faire une théologie, de faire une description, de nous donner des connaissances sur la divinité. Essentiellement, ce qu'on dit sur Hachem, c'est pour nous. On nous dit, quand Hachem fait, se conduit de telle manière, l'essentiel c'est que ça veut dire que c'est quelque chose de très bien et que nous avons à le copier. Ok, ça on connaît. Maintenant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire chez Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu a poursuivi, il est allé faire la guerre contre les rois qui avaient fait prisonnier Lot. Vous vous souvenez, il y a eu une guerre des quatre rois contre les cinq. Et dans ceux qui ont perdu la guerre, il y avait les gens de Sodom. Et Lot était un habitant de Sodom. Donc Lot, lui aussi, il a été fait prisonnier. Et en réalité, quand les gens ont vu qu'ils avaient fait prisonnier Lot, ils ont cru qu'ils avaient fait prisonnier Abraham. Donc ils se sont beaucoup réjouis. Mais quand ils ont vu qu'ils s'étaient trompés, alors on a mis Lot quasiment dans une cage, et on a dit, les gens de Sodome ont dit au vainqueur, que c'est lui, c'est ce bonhomme-là, ce Lot-là, c'est lui qui nous a poussés à nous révolter contre vous, à faire la guerre, etc. Tout est de sa faute à lui. Et donc, Lot s'apprêtait à passer encore un plus mauvais quart d'heure. Mais les gens se sont dit, si on garde Lot prisonnier, son beau-frère, et son oncle, Abraham, il ne va pas rester les bras ballants. Il va essayer de venir le délivrer. Donc il va nous faire la guerre. Et donc maintenant, on va tous s'allier et on va faire la guerre à Abraham. Et il ne pourra pas gagner contre nous tous et on en viendra à bout et on fera disparaître effectivement ces valeurs d'Abraham de la surface de la terre, ils arrêteront de nous casser les pieds avec ces valeurs. Et ça n'a pas manqué. Abraham Avinu, comme vous savez, il est allé faire la guerre pour délivrer Lot. Mais en son temps, et même beaucoup plus tard aussi, on ne faisait pas la guerre la nuit. Parce qu'ils avaient des problèmes avec des groupes électrogènes qui ne marchaient pas toujours, etc. Donc ils ne pouvaient pas faire la guerre la nuit. Mais Abraham Avinu, il a dit, c'est pas parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire la guerre la nuit que Lot va rester prisonnier une nuit de plus. Et donc lui, il a fait la guerre pendant la nuit. C'est-à-dire, il a transformé la nuit en jour. Et comme vous savez, il a gagné, il a libéré Lot. Mais du coup, il s'est passé cette chose extraordinaire qu'Hachem a dit à Abraham Avinu. Toi, tu as transformé la nuit en jour pour délivrer Lot. En fait, la guerre en question, elle ne s'est déroulée que dans la première partie de la nuit, jusqu'à Hatzot, jusqu'à la minuit. Hachem a dit, je vais prendre, moi, modèle sur toi, le monde à l'envers. Hachem qui prend modèle sur Abraham Avinu. Il dit, de même que toi, tu as transformé la nuit en jour, moi, je transformerai la nuit en jour pour tes descendants. Et c'est ce qui s'est passé, la nuit qui a été transformée en jour, c'est la nuit du 14 au 15, c'est la nuit où nous sommes sortis de Mitzrayim, où la nuit est cette fameuse Leil Shimurim, cette nuit-là, on y voyait comme en plein jour. Hachem a pris modèle sur Abraham Avinu. Il a transformé la nuit en jour pour les descendants d'Abraham Avinu, pour les Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte. Oui.
Et pour cette guerre qu'Abraham Avinu a faite, c'était vraiment le jour, le deuxième jour?
Non, de quoi? Non, pas du tout. Il a transformé la nuit en jour. C'est un certain jour. La vérité, c'est que c'est ce même jour, mais ça, on ne le voit pas, mais la dracha, elle est comme ça. En réalité, c'est cette nuit-là qu'Abraham a fait la guerre contre les neuf rois, parce que les quatre plus cinq, qui contre Abraham, ils étaient tous d'accord de se battre, et qu'il les a vaincus. Et c'est dans cette guerre-là, c'est-à-dire la guerre qui a eu lieu ce soir-là, cette demi-nuit-là, qui se trouve être la nuit du 14 au 15, Abraham a venu nous la transformer en jour. Alors Hachem a dit, moi aussi, je vais m'associer à toi, et l'autre moitié de la nuit est sur ton modèle. Vous comprenez, c'est plus l'homme qui copie Hachem, c'est Hachem qui copie l'homme. C'est ça Abraham Avinu, si vous voulez. Et Hachem a transformé la nuit en jour. Donc en fait, la sortie d'Égypte, c'est le jour. Parce que même la partie qui s'est déroulée de nuit, elle a été transformée en jour. Et par conséquent, tous les chachamim de l'époque pensaient qu'il n'y a pas lieu de mentionner la sortie d'Égypte dans la nuit, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de mentionner ce troisième paragraphe du Shema qui contient ou bien les tzitzit qui ont à voir avec le jour, donc pas la nuit, ou bien la sortie d'Égypte qui a à voir elle aussi avec le jour et pas la nuit. Et donc, Rabbi Elazar ben Azaria n'a pas trouvé d'argument. Lui, il pensait que c'est sûr qu'il faut dire ce troisième paragraphe, à cause de la sortie d'Égypte. Mais il n'a pas réussi à construire le raisonnement, si vous voulez, qui allait convaincre les Chachamim jusqu'à Ad Shedansha Ben Zoma, jusqu'à que vienne Ben Zoma et qu'il fasse la fameuse Drasha, où c'est marqué, Ben Zoma il a dit, dans le pasouk c'est marqué, le Ma'an, moi c'est Hachem qui parle. Hachem dit, j'ai fait tout ce que j'ai fait en Mitzrayim, dit Hachem. Je l'ai fait, le Ma'an tizkor, afin que tu te souviennes, et yom tzetra me'eretz Mitzrayim, du jour de où tu es sorti du pays d'Égypte. Tu t'en souviens, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Alors Ben Zoma a dit comme ça, si le verset avait été, le Man Tizkor, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, Yemei Chayecha, les jours de ta vie, j'aurais déjà su que ça voulait dire qu'il faut m'en souvenir tous les jours. Le mot « kol yemei chayecha », tous les jours de ta vie, c'est en trop. C'était pas nécessaire de dire « kol », puisque « yemei chayecha », ça veut déjà dire « les jours de ta vie », donc tous les jours de ta vie. Alors le « kol yemei chayecha », le « kol » veut dire « tu t'en souviendras, y compris les nuits ». C'est ça l'argument de Ben Zoma, qui dit donc, comme si Hachem avait dit donc, c'est comme ça qu'il faut lire le verset, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jour et nuit, tous les jours de ta vie. Tous les jours et toutes les nuits de ta vie. Et avec ça, on sait donc qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte aussi la nuit, et donc c'est suffisant pour nous obliger à dire le troisième paragraphe du Shema, du seul fait que on parle dans ce troisième paragraphe de la sortie d'Égypte, d'en parler dans la nuit. Ça, c'était la dracha de Ben Zoma. Les Chachamim, ce même verset, ils l'ont pas lu comme ça. Eux, ils ont dit, non, Yemei Chayecha, c'est les jours, c'est pas les nuits. Ah, Kol Yemei Chayecha, tous les jours. Le Havi l'imot à Mashiach. A priori, ça veut dire pour inclure qu'au temps messianique, on se rappellera aussi de la sortie d'Égypte. L'idée étant que la sortie d'Égypte, par rapport au temps messianique, c'est une petite lumière à côté d'un soleil, si vous voulez. quand on sortira de tous les exils, si vous voulez, quand ça sera les temps messianiques, alors la lumière sera infiniment plus grande qu'elle n'a été au moment de la sortie d'Égypte. Et donc c'est toujours l'histoire, est-ce que ça vaut la peine d'allumer une petite lumière en plein jour ? Bon, est-ce que si c'est pour s'éclairer, à quoi ça sert d'allumer une bougie en plein jour ? Alors, la dracha des Chachamim, c'est que même dans les temps messianiques, on parlera encore de la sortie d'Égypte, bien que ce soit, on pourrait dire, négligeable par rapport à ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là, ce qu'on sera en train de vivre à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte. Mais on reviendra sur l'autre partie de la dracha. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est cette mitzvah de dire le troisième paragraphe du Shema dans la nuit. La question qui, évidemment, vient tout de suite, c'est qu'est-ce que ça fait dans la Haggadah ? On n'est pas en train de parler de mentionner la sortie d'Égypte. Quand on parle dans la Haggadah, on parle de mentionner la sortie d'Égypte le soir du 15, Nissan. Qu'est-ce que ça a à voir avec un drasha qui dit que tous les soirs, on mentionne la sortie d'Égypte dans le Shema ? Et alors, même si on veut aller plus loin dans ce sens-là, alors on doit se demander, est-ce que quelqu'un qui s'est acquitté du troisième paragraphe du Shema, est-ce qu'il a encore une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte le soir du 15? Il va à la synagogue, avant la Haggadah, avant le Seder, la nuit est tombée, il dit le Shema, y compris le troisième paragraphe, il mentionne la sortie d'Égypte. Ok, il rentre chez lui, il n'y a pas besoin de recommencer. J'ai déjà mentionné la sortie d'Égypte. Pourquoi je vais recommencer toute une soirée à parler de la sortie d'Égypte ? Je me suis déjà acquitté. Chez une partie des Rishonim, donc des grands maîtres du Moyen-Âge, essentiellement, il semble qu'eux pensent qu'on s'est effectivement acquitté de la mitzvah. C'est fait, la mitzvah. C'est pas qu'ils faisaient pas le seder, mais la mitzvah, on l'a déjà faite. Eux, ils posent la question et ils demandent comment se fait-il qu'il n'y ait pas une bracha avant la Haggadah ? Comme il y a une bracha avant la lecture de la Megillah, on devrait avoir. Où on dit Asher kitchanu bemitzvotav et tzivanu likro Megillah ou al mikra Megillah, on devrait ici avoir une bracha Asher kitchanu bemitzvotav et tzivanu al mikra Haggadah, al kriyat Haggadah. C'est une mitzvah positive. Une mitzvah, avant de faire une mitzvah, on fait une bracha. D'où est-ce que je vois qu'il y a une mitzvah ? C'est la mitzvah, le texte de la mitzvah qui nous fait mitzvah de raconter la sortie d'Égypte le 15, c'est le pasuk qui dit « Ve'igata l'vincha b'yom ahu » Tu raconteras à ton fils ce jour-là, c'est-à-dire le 15, dans la nuit. Et donc il pose la question, c'est une mitzvah, on devrait faire une bracha. Et ils répondent, on ne peut pas faire la bracha parce qu'on s'est déjà acquitté de cette mitzvah avec le troisième paragraphe du Shema. Ça, c'est une partie des Rishonim. Au nom du Abudraham, au nom du Rajba, il dit qu'on ne peut pas faire une bracha sur la lecture de la Haggadah, parce que c'est une mitzvah qui n'a pas de fin très précise. Elle n'a pas non plus de durée très précise. Parce que, au fond, combien de temps il faut parler de la sortie d'Égypte pour s'être acquitté? A priori, avec une seule phrase, je me suis acquitté. J'ai mentionné la sortie d'Égypte, c'est terminé. C'est pour ça qu'on dit que la marbelle est sa père. Tout celui qui en rajoute, qui en parle plus, a raisé Meshubach. Il est digne d'éloge. Mais c'est un éloge, puisqu'on s'est déjà acquitté. Même ceux qui ne disent pas « je m'en suis déjà acquitté » avec le troisième paragraphe du chemin. Mais les premiers mots, à la limite même dans le Kiddush, « Zecher Yetziat Mitzrayim », voilà, c'est terminé. On s'est acquitté, c'est terminé. Alors, pourquoi est-ce qu'on en fait plus? D'après eux, d'après le Rashba, parce que « Kolamar Bel Saper ». Mais du coup, « Kolamar Bel Saper », ça n'a plus de fin. Donc c'est une mitzvah qui n'a pas vraiment de fin. Et là-dessus, on ne fait pas de bracha quand les choses ne sont pas quantifiées exactement. C'est-à-dire quand on ne dit pas, voilà, quand on aura dit 10 phrases, alors c'est bon, mais une phrase et puis c'est sans fin, ça, on ne fait pas de bracha. Et d'après ça, on comprend qu'on mentionne cette Mishnah de Rabbi Lazar ben Azaria et ben Zoma, qui n'a rien à voir avec le récit de la sortie d'Égypte, de la mitzvah au titre de la mitzvah de Vigata Levincha, puisqu'on parle ici justement de la mitzvah quotidienne de dire le troisième paragraphe du chemin toutes les nuits. On comprend bien qu'on a amené ça parce que c'est aussi une façon de s'en acquitter. Bon, je me suis aussi acquitté de la mitzvah avec le troisième paragraphe. Tout ce que je fais maintenant, c'est Begeder, il faut l'entendre comme Kolamar Bel Saper, celui qui en rajoute, il est digne d'éloge. Bon, ça c'est formellement, c'est comme ça que ça se présente. En réalité, bien sûr, tout le monde pense, enfin, la plupart des gens pensent que les deux mitzvot sont deux mitzvot complètement différentes. La mitzvah de mentionner le chemin, de mentionner la sortie d'Égypte dans le troisième paragraphe du chemin, et la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte le soir du Seder, le 15, Nissan, sont deux mitzvot différentes. Pourquoi? Parce que toutes les nuits, c'est-à-dire donc le chemin, c'est quelque chose que on doit se souvenir. Le ma'an tizkor, pour que tu te souviennes de la sortie d'Égypte. Alors que le soir du Seder, v'igadta, il y a une mitzvah de Sipour, de raconter la sortie d'Égypte. Et par le seul souvenir, en réalité, on ne s'acquitte pas de la mitzvah de Sipour. Il ne suffit pas de se souvenir. Au nom de Ephraim de Brisk, on dit qu'il y a plusieurs différence entre Sipour, le récit, et le se souvenir de. Dans la mitzvah de se souvenir, c'est quelque chose qu'on peut faire pour soi, tout seul. Dans la mitzvah de Sipour, le raconter, il faut raconter à quelqu'un, a priori. Marquez Vigata Levincha. La description de la mitzvah, c'est une mitzvah qui se fait à deux, au moins. Entre celui qui raconte et celui auquel on raconte. marqué « Ki shalcha mincha » quand ton fils t'interrogera, tu répondras, etc. Ensuite, on avait dit la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, le Sipur, il se fait sous forme de questions et de réponses. Au point qu'on a dit à Filou, deux Talmidei Chachamim, Shoalim Ze et Ze, Ze le Ze. Ils s'interrogent l'un l'autre. Et même si on n'a pas d'enfant, ben on s'interroge soi-même. C'est-à-dire, la zechira, je peux la faire par moi-même, c'est tout, j'y réfléchis. Mais celui qui est tout seul, qui fait le seder tout seul, il doit se poser des questions, changer de casquette et répondre. Donc il faut faire ça à deux chapeaux. Ces deux femmes, là, vous mettez une perruque et un tichel, la question, changez de couvre-chef, et vous répondez. Ça doit se faire à deux. Donc même quand on est tout seul, on s'interroge. Bon, l'histoire des chapeaux, c'est une option, hein, c'est pas nécessaire. Mais bon, c'est de ça qu'il s'agit. La sortie d'Égypte se raconte. Et si on n'a pas à qui raconter, on se raconte à soi-même. La zechira, dans le souvenir, on doit seulement se souvenir de la sortie d'Égypte, de la Géoula. Se souvenir, Hachem m'a fait sortir d'Égypte. C'est ça la mitzvah. Mais dans la mitzvah de Sipour, il y a une halakha que matrilim bignout v'msayem b'shevar, comme on a vu ça la dernière fois. On commence par raconter quelque chose de négatif, on a vu qu'il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il faut raconter, etc. Et puis ensuite, on déroule, il y a tout un déroulé, et jusqu'à ce qu'on arrive à dire la louange d'Hachem qui nous a sorti d'Égypte. C'est tout le... La mention de l'exil ou de l'esclavage, etc. Dans la Zechira, j'ai pas besoin d'en parler. Je dois seulement me rappeler, sache, rappelle-toi, tu es sorti d'Égypte. Maintenant, dans le Sipour, dans le récit, on doit inclure dans le récit les mitzvot du jour, enfin, en l'occurrence, c'est les mitzvot du soir. Il faut savoir que, en général, les mitzvot positives, le loulav, le shofar, etc., c'est les mitzvot du jour. Et le soir du seder, on fait en quelque sorte des mitzvot qui normalement devraient se faire de jour. Parce que c'est les mitzvot assez, c'est manger de la matzah, on devrait manger de la matzah de jour. Parce que les mitzvot positives, on les fait de jour. Et d'après le Gaon de Vilna, c'est la raison pour laquelle on fait une faute de grammaire. D'accord ? Récitez-vous le Manishtana. Manishtana laïla hazé. D'accord ? Si vous faites ça à l'examen d'hébreu, vous allez avoir des problèmes. D'accord ? Parce que laïla, c'est féminin. Comment se fait-il qu'on dise à laïla hazé ? On devrait dire à laïla azot. Et le gars, pardon ? Yo. C'est parce que c'est une nuit qui est comme un jour. C'est une nuit qui a été transformée en jour, dit le Gaon de Vilna. C'est pour montrer ça, c'est-à-dire dans la question Manishtana, la première question c'est pourquoi tu dis Alayla Hazé. Avant d'avoir dit quoi que ce soit, avant d'avoir raconté toutes les questions elles-mêmes, mais de dire Alayla Hazé, c'est déjà... Ben tiens, quelle langue tu parles là tout à coup? Donc ici, on a une obligation de dire dans le récit, Il faut raconter les mitzvot qu'on a à faire. Où est-ce qu'on voit ça dans la Haggadah? Il faut parler des mitzvot. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, Kol shelo amar shlosha dvarim elu bepesach, lo yatsa ide chovato veeluhen. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là, le soir du Pessah, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Bon, c'est pas très clair de quelle mitzvah il s'est pas acquitté, n'est-ce pas? Mais bon, est-ce que c'est de la mitzvah de les trois mitzvot qu'il a pas bien faites? Ou est-ce que du coup ça met en cause tout le sipur Yetziat Mitzrayim? Chez nous on a l'habitude que tout le monde dit Pessah, Matzah ou Maror. On doit dire ça. Aïe, je fais mieux que de le dire, je le mange. Est-ce que tu... D'accord, je le prends en main. Pas le Zroa, n'est-ce pas? On ne prend pas le Zroa en main pour pas que ça ait l'air de... Comme si c'était des Kodashim, comme si on voulait dire que c'est un korban, quoi, un morceau de korban. Alors celui-là, on le montre du doigt. Pour ça, ça marche aussi à Laïla Zé, à Laïla où on montre du doigt. Les autres, la matzah et le maror, on peut prendre. La matzah, on la prend en main. Le maror aussi, on le... Et on continue. On a dit Pessah, matzah ou maror. Puis ensuite, on dit Pessah, al-shumma. D'accord, le korban, pourquoi est-ce qu'on mangeait le korban? Et la matzah, le al-shumma et maror al-shumma. Le Rambam, il ramène ça à la halakha. Et d'après ça, ce qu'on a vu, c'est une question que le Maharal pose. Le Maharal demande, « Ma tam iskiru ba'agada, machloket ben zoma b'chachamim. » Pourquoi est-ce qu'on a mentionné dans la Haggada la machloket, la discussion entre ben zoma qui lui a dit Kol yemechayecha l'avi et à l'élot, et les chachamim qui disent le col de Kol yemechayecha, c'est pour inclure les temps messianiques, l'avi et l'imot amashiach. Ici, on est dans la mitzvah de Sipour, on n'est pas dans la mitzvah de se souvenir. Alors pourquoi on mentionne cette machloket en Ben Zoma et Chachamim qui parle du souvenir et pas du Sipour? On dit bien clairement, Va'afilu kulanu Chachamim, Novonim, etc. Mitzvah aleinu le saper. Nous avons une mitzvah de raconter. Bi'itziat Mitzrayim. Puis ensuite, on raconte Maaseh Rav. On dit Maaseh Rabbi Elazar, Rabbi Yoshua, etc. Hein, qui était chez Rabbi Akiva, à Bnei Brak. Et qui ayu mesaprim bi'itziat Mitzrayim kolotu alayla. Qui ont raconté la sortie de l'Égypte pendant toute la nuit. Donc ça, c'est une question du Maharal. Qu'est-ce que ça fait là? Alors, il y a un texte qui est... C'est pas une Mishnah, mais c'est aussi ancien que la Mishnah, ça s'appelle une Tosefta, qui dit la chose suivante. Elle dit, Chayav Adam, la'asok be'ilchot ha-pesach kol ha-layla. L'homme a l'obligation de s'occuper des halachot de Pesach pendant toute la nuit. Afilu le beino le ben beino, même entre lui et son fils, beino le ben atzmo, entre lui et lui. Et la Tosefta, elle amène une preuve. Maase b'Rav Gamliel v'Zkenim shayu mesubin b'Vet Baitos ben Zunin b'Lud. Une autre histoire où le Rav Gamliel et les Zkenim, les anciens, ils étaient à un endroit chez un bonhomme qui s'appelait Baitos ben Zunin à Lud. V'ayu asukim בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגמר. Jusqu'au moment où le jour a commencé. Si vous voulez, c'est un texte absolument parallèle à celui de la Haggadah, où on dit que Rabbi Yoshua, etc., Bélezer, ils étaient tous à Bnebrak chez Rabbi Akiva, et là-bas on dit Ayou Mesaprim, il racontait la sortie d'Égypte. La différence, comme Gamliel et Skenim, c'est qu'ils se sont occupés de Alachot, de Pessah. Les lois de Pessah. Ça veut dire quoi, a priori? Ça veut dire que d'étudier les Alachot de Pessah, c'est une façon d'accomplir la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Puisqu'il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte pendant toute la nuit, au titre de Kol Amarbel Saper Arezé Meshubach, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié pendant toute la nuit. Ça veut dire, ils ont dit je vous rassure, n'est-ce pas, ils ont dit la Haggadah, comme il faut. Et après, le reste du temps, pendant toute la nuit jusqu'au matin, ils ne sont pas allés dormir, ils ont commencé à étudier les halakhot de Pessah, et les halakhot de kachérisation de Pessah. C'est pas du tout pour savoir comment faire Pessah, ils sont déjà dans Pessah. C'est un peu tard pour savoir comment il faut kachériser la cuisine pour Pessah. C'est pas le soir du Seder qu'on kachérise, n'est-ce pas? Donc, mais les halakhot de kachérisation, ça fait partie des halakhot de Pessah. Donc, vraisemblablement, ils ont aussi étudié les halakhot de kachérisation de Pessah. Ils ont aussi étudié avec quelle sorte de maror on fait la mitzvah. Est-ce qu'il faut que... Il y a cinq sortes de maror, il y a une hiérarchie des sortes de maror avec lesquelles, des sortes de que ce soit la chassa, que ce soit de la laitue, ou que ce soit du réfort et d'autres sortes, des endives, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est une discussion dans la Gemara, dans Masechet Pesachim. Ils ont parlé de ça aussi le soir du Seder. Et donc c'est comme ce soir-là, comme tout le monde, ils étaient astreints à raconter la sortie d'Égypte, et qu'eux, ils se sont occupés d'étudier les halakhot, ça veut dire qu'on s'acquitte de la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, en étudiant les halakhot de Pessah. Pas seulement en racontant toutes sortes d'explications, de surexplications, etc., sur la façon dont, sur le pourquoi dans les sorties, etc. La halakhot, c'est aussi une façon de faire. Et peut-être qu'il y a une allusion à cela dans le fait que on doit dire dans la Haggadah, Kol shelo amar shloshat varim elu bepesach, lo yatsa ede chobato, pesach matsa umaro, d'accord? Ça veut dire que nous, jusqu'à présent, on a entendu que c'était une partie de la Haggadah que de parler de ce qui va être mangé dans la soirée. Mais peut-être que c'est une indication qu'on peut qu'on s'acquitte aussi, si pour Yetziat Mitzrayim, en parlant de Halakhot, parce que qu'est-ce que c'est dire Pessah, Matzah ou Maror, expliquer Pessah al-Shumma, et Maror Matzah al-Shumma, et Maror al-Shumma, c'est bien des discussions sur pourquoi on mange ça, etc. Et donc ça, c'est de la Halakha. Maintenant, le fait de s'étendre, d'expliquer plus avant le Pessah, le Korban, la Matzah et le Maror, c'est que la marbelle s'appère. Plus on en raconte, mieux ça vaut. On l'entend aussi dans la réponse qu'on fait au Chacham. Vous vous souvenez, il y a quatre, dans la Haggadah, on parle de quatre fils, quatre types de personnages, et on parle du Chacham. Et le Chacham, lui, pose la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et on lui répond, Afata et Morlo Keil Chota Pesach. Toi, tu vas lui répondre, au Chacham, qu'est-ce qu'on lui répond? Ben, tu lui apportes la halakhot de Pesach. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé, le Chacham? Comment il pose sa question, le Chacham? Chacham, ma ou omer? Qu'est-ce que vous dites? Toi, tu peux tricher, tu peux regarder dans ton livre. Tu pouvais le dire avant elle. Pardon. Ma, qu'est-ce qu'il pose comme question? Nous, Hanan Rivka. Neged Arba Banim Dibra Torah, vous l'avez ce texte?
Le sage demande, oui.
Voilà, oui.
Que sont ces témoignages, ces statuts, ces lois?
Ma Haedot, Vachukim, Vachmishpatim. Donc lui déjà, c'est ça qui montre qu'il est un chacham, il sait que dans les mitzvot, il y en a qui sont du type témoignage, il y en a qui sont des décrets. N'est-ce pas? Il y a des lois habituelles, etc. Donc il dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, la question c'est, il sait déjà tout ça, qu'est-ce qu'on lui répond?
On ne termine pas le repas de l'agneau pascal.
Alors, juste avant ça, il y a encore un morceau de phrase.
Aussi, toi, instruis-le.
Voilà. Oui, on continue, instruis-le.
Selon les prescriptions de Pessah et d'Ili.
Voilà, ça veut dire, et toi aussi, dis-lui qu'il chote à Pessah, tu lui dis les halakhot de Pessah. Et tu dis les halakhot de Pessah jusqu'à la dernière halakhot, à la dernière halakha. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dernière halakha du soir de Pessah? Elle parle de la dernière chose qu'on fait à Pessah, c'est quoi? Non, c'est la ficomane, c'est juste, mais... Disons, il y a quelque chose qui est, ou qu'on fait pas, si vous voulez, on essaie de garder. Lis, s'il te plaît.
On ne termine pas le repas de l'agneau pascal par un afikoman.
Voilà. Et martyri la harapesa afikoman. Alors, c'est une drôle de phrase, parce que c'est une phrase qui est pleine de grec. D'accord? Et une martyrin, c'est, et afikoman, c'est le grec. Mais, et martyri la harapesa afikoman, ça veut dire, en français, ça veut dire il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert. Pourquoi il n'y a pas de dessert? Parce qu'il faut garder, initialement, c'était pour garder le goût du Korban Pessah dans la bouche. Et jusqu'à quand il faut le garder? Jusqu'à quand il faut garder ce goût? Si on ne peut pas, pour le garder, il ne faut pas manger dessus. Oui? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On peut prendre un petit-déj? Ou est-ce qu'on peut manger quelque chose avant aussi, même, avant le petit-déj? Jusqu'à quand il faut le garder? Jusqu'au moment où on est dans la mitzvah, pendant tout le temps où il y a une mitzvah de manger le Korban Pessah. Et ça, c'est une machloquette. Il y a ceux qui disent qu'il faut manger avant Chatzot, avant la mi-nuit, pas minuit, mais la moitié de la nuit, encore avec le changement d'heure, chez nous, c'est quelque chose comme un peu après une heure, au moins entre une heure et demie, je ne sais plus, je ne sais pas encore, je ne vais pas regarder. Et il faut manger le Korban Pessah avant ça, et il y a une autre opinion qui dit qu'on a jusqu'au matin. Donc, d'après ceux qui disent qu'il faut manger le Korban Pessah jusqu'à Khatsot, après Khatsot, il n'y a pas de raison de garder le goût dans la bouche, puisque il n'y a plus de mitzvah de manger, donc ça ne sert à rien d'en garder le goût. Le goût, c'est pendant toute la période où il faut manger du Korban Pessah, alors garde le goût du Korban Pessah. Donc, c'est ceux qui pensent comme ça, après Khatsot, ils peuvent manger autre chose. Ceux qui disent, on peut manger le Korban Pessah jusqu'au matin, alors, après le matin, le soleil se lève, tu peux prendre un petit-déj. Parce qu'il n'y a plus de mitzvah de garder le goût, puisqu'il n'y a plus de mitzvah de manger le Korban Pessah. Donc, c'est ça qu'on lui dit. On lui donne cette dernière halakha, c'est-à-dire la halakha du... N'est-ce pas? Il faut bien entendre, ça j'en ai déjà dit plusieurs fois, Pessah, c'est le nom, nous on utilise Pessah comme le nom de Pessah pour désigner les 8 jours de Pessah. Mais c'est un abus de langage. Le seul jour qui mérite le nom de Pessah, c'est le premier soir, éventuellement le premier jour, pour nous les 2 premiers jours. Après, ça, on devrait l'appeler comment après? Chag HaMatzot. D'accord? Il y a le mot Pessah, il a à voir avec le Korban Pessah, évidemment. D'accord? Or, c'est quelque chose qui n'est adéquat. Ce nom-là, il est à sa place. Seulement quand on parle du moment, du jour où on mange le Korban Pessah. Alors, je peux dire toute la journée, puisque la nuit, on avait l'obligation de manger le Korban Pessah. Et donc, c'est... On est dans le premier jour de Pessah. Alors disons le premier jour de Pessah, ça s'appelle Pessah. Mais après le deuxième, etc., jusqu'à la fin, c'est Chag HaMatzot. C'est pas Pessah. Et ça fait ce sont deux choses différentes. Je fais une parenthèse. C'est une parenthèse importante, mais... C'est marqué sur le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire le dernier jour de Pessah dans la Torah. Ce jour-là, il est appelé Atzeret. Le mot Atzeret, ça veut dire clôture, fermé. C'est en hébreu, dans les routes, pour marquer le stop, c'est marqué Atzor, freine, arrête ta course. D'accord ? Atzeret, ça veut dire clôture, disons. Donc la clôture de la fête Chag HaMatzot, c'est le 7e jour. C'est normal, c'est le dernier jour de Pessah, c'est la fête de clôture. Maintenant regardez. À Shavuot a un nom, il s'appelle Shavuot. Il s'appelle dans la fête, c'est Chag HaShavuot, on peut dire, mais c'est aussi Chag HaBikurim, etc. Or, les Chachamim, à une exception près, ils ne disent jamais, ils ne nomment jamais cette fête Shavuot. Cette fête, ils l'appellent Atzeret. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Atzeret? C'est une Atzeret après une Atzeret, c'est quoi? On a déjà fait la fête de clôture. Pourquoi tout à coup, Shavuot, ils l'appellent Atzeret? Alors, c'est très important. Atzeret, Shavuot, c'est la Atzeret de Pessah. Le 7e jour, c'est la Atzeret de Chag HaMatzot. Et pourquoi Shavuot, c'est la Atzeret de Pessah? Comment on le voit? C'est que le lendemain de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain du Korban Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? On compte l'Omer. Donc, le Omer, on ne le compte pas après Pessah, après les 7 jours de Pessah. On le compte après le premier jour, c'est-à-dire après le seul jour qui mérite le nom de Pessah. Donc la Atzeret de Pessah, c'est Shavuot. D'accord? Et ça, c'est très important parce que, d'après ce que j'ai dit au dernier shiur, vous souvenez, on avait dit la chose suivante. Juste pour mémoire. Oui. Il y a donc deux récits dans la Torah, dans la Haggadah. Un récit de la sortie d'Égypte en tant que lieu d'esclavage. Ce récit-là, il commence « Avadim haïnou le pharo b'mitzraïm » Nous étions avadim de Paro en Égypte. Ta, 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 ta. Et Akadosh Baruch Hu nous a amenés à la liberté. C'est-à-dire, il a fait, les, comme Rambam dit, « Nissim, veniflaot, etc. » jusqu'à ce que nous soyons libres. Libre voulant dire ici, libre de l'esclavage de Paro. Jusque-là, on était esclaves de Paro, maintenant on ne l'est plus. Et ça s'appelle, le Rambam dit, « Chérouteinu », notre libération. Le mot « libération » c'est un mot, ça se dit « chérout ». Le mot « chérout », il s'écrit de la même manière, « chet, reish, vav, tav », il s'écrit de la même manière que, on pourrait le lire aussi, « charout ». Et « charout », ça veut dire « gravé ». D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, on parle de quoi ? On parle de la gravure des tables, de la loi, comme on dit, des louchot, qui sont gravés be'etzba Elohim. C'est le doigt d'Elohim qui a gravé le contenu de, qui a écrit donc sur les louchot, le Anochi, etc. Et Chazal, fort de ce double sens du mot qui s'écrit ret, resh, vav, tav, ils disent, il n'y a de chérout que ce qui est charout à la louchot. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'écriture la moins libre qui soit, c'est la gravure. D'accord ? Quand vous avez écrit sur, vous pouvez effacer. Si, mais maintenant dans une gravure, vous ne pouvez pas effacer, c'est... Mais maintenant, supposez que dans la gravure, on est gravé sur un bloc qui a une épaisseur de, je sais pas, de 10 cm, et on l'a gravé à une profondeur de 3 cm. Alors, si vous voulez, vous pouvez trancher, d'accord ? À 3 cm depuis le haut, à 4 cm depuis le haut, vous enlevez une couche, et il vous reste 6 cm vierge. D'accord ? Et donc, cette gravure-là, Elle est bien plus fixe, bien plus lourde que l'écriture simple, mais il y a mieux. Les louchot, elles n'étaient pas gravées comme ça, elles étaient gravées de part en part. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas couper, ce n'était pas possible. Donc c'est vraiment l'écriture la moins libre qui soit. C'est une écriture qui est complètement figée. On ne peut rien faire. On ne peut pas effacer, on ne peut pas trancher la partie gravée. Il n'y a pas. C'est dans la masse, tu ne peux absolument rien faire. Et donc, on pourrait dire, c'est tout sauf de la liberté. D'accord ? C'est l'écriture la moins libre. Donc, c'est difficile de dire que ce qui a été écrit de cette manière-là représente la liberté. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit. La vraie liberté, c'est celle qui est donnée par ces contraintes minimales ou contraintes même importantes qui sont la condition sine qua non de la vraie liberté. La vraie liberté, ça n'est pas de ne plus être esclave de Paro. La vraie liberté, c'est ce qu'on aura reçu, c'est ce qu'on recevra, ou ce qu'on a reçu au Sinaï. Donc c'est cette gravure-là. Et donc c'est en cela que ce qu'on avait dit, c'est que dire que le Shevach, que la partie louange du récit qui commence à Vadim Aïnou, c'est d'accéder à la liberté, au sens de liberté, par rapport à l'esclavage, à ne plus être esclave de Paro, c'est pas le top du top. On avait dit, le top du top, c'est quoi? C'est Arshav Kervanu Amakom Lavodato. Maintenant, Hachem nous a ramenés à son service. On est devenu le peuple d'Hachem, on a reçu la Torah. Donc, le vrai Chérout, il a lieu à Sukkot. Donc, c'est en cela que la Atzeret de Pessah, c'est Shavuot. Parce que c'est là qu'on a accédé à la vraie liberté. La liberté de ne plus être esclave de Paro, c'était une condition, disons, sine qua non, pour pouvoir devenir les Avadim d'Hachem. Parce que tant qu'on était Eved de Paro, on ne pouvait pas dire qu'on était Avdé Hachem. Or, nous ne sommes pas sans aucun maître. On peut dire, on a passé d'un maître, Paro, à un autre maître qui est Hachem. Alors, on pourrait dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est big deal? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a gagné? On a seulement changé de maître. Ce que je crois que je vous ai déjà dit, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui est dérangeant, si vous voulez, dans la condition d'esclave? C'est que vous travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour quelqu'un. Ce quelqu'un, il a ses désirs, il a ses envies, etc. Vous allez participer à combler ses désirs. Donc, vous travaillez vraiment pour lui. D'être esclave d'Hachem, c'est en fait le seul moyen de ne plus être esclave de qui que ce soit. Comme Hachem va dire, Avadaihem, les Bnei Israël sont mes esclaves. Et d'être mes esclaves, ça fait qu'ils ne peuvent plus être esclaves de qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres, sauf s'ils sont des choutafim, mais on ne peut pas être esclave de deux entités, de deux autorités, de deux maîtres différents. Donc d'être esclave d'Hachem, ça nous libère de tous les autres esclavages. Et l'avantage, c'est que quand Hachem nous dit de faire, il nous dit « faites les choses pour moi », mais Hachem n'a besoin de rien. Et même si on voulait, on ne peut rien lui donner, parce que tout ce que nous avons, c'est ce qu'il nous a déjà donné. Nous n'avons rien par nous-mêmes, sans qu'il nous ait, initialement en tout cas, on a peut-être fait un grand travail, on a développé, etc. Mais initialement, il nous a donné les choses pour d'avoir la vie, quoi, pour pouvoir faire les choses qu'on fait. Et donc, Hachem nous dit, faites pour moi, parce que c'est le seul moyen de faire vraiment pour vous. Si vous voulez vraiment faire pour vous, alors faites pour moi, parce que en faisant pour moi, moi je me débrouille pour que ça arrive chez vous. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de faire vraiment pour soi? Parce que de la même manière qu'il y a la gravitation dans la physique, il y a dans la métaphysique, il y a dans le spirituel, quelque chose qui est le moi de l'homme, etc., qui fait qu'il n'arrive pas, il est toujours insatisfait, il n'arrive pas à faire vraiment les choses pour lui. Pour qu'on ait le seul moyen de faire vraiment les choses pour soi, c'est que ce soit Hachem qui nous les donne. Comment il me les donne? Je vise Hachem, et à ce moment-là, ça arrive vraiment chez moi. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui l'envoie chez moi. Et comme je le vise lui, et que c'est pas pour lui, puisque lui n'a besoin de rien, et qu'on peut rien, on ne peut rien lui donner, d'accord? Ce qu'il nous demande de faire, soi-disant pour lui, c'est en vérité pour nous. Donc, ça c'est la notion de changement de maître, on a changé de maître, effectivement, mais parce que cette avdoute-là nous libère de toute autre avdoute possible, on ne peut pas devenir évêque de qui que ce soit d'autre, formellement, bon, extérieurement ça peut ressembler à un avdoute, mais au fond, on est le peuple d'Hachem, et ça, personne ne peut nous l'enlever. D'accord? Nous sommes Bnei Israël, nous sommes Am Hachem, le peuple d'Hachem. Et donc, ça c'est dans la parenthèse, si vous voulez, pourquoi effectivement le Chérout, la libération, en fait, la vraie libération, elle a lieu seulement 7 semaines après le Korban Pessah, c'est-à-dire à Shavuot. Bon, on revient à ce que je disais, si j'arrive à revenir à ce que je disais. Non, alors, ça, on a expliqué que, effectivement, le... la mitzvah qu'on donne, la réponse qu'on donne au chacham, c'est maftirin achapesach afikoman. Il n'y a pas de dessert après l'afikoman. Parce que chez nous, l'afikoman représente quoi? Le korban pesach. D'accord? Donc, après le korban pesach qui est représenté par ce morceau de matzah qu'on appelle afikoman, qu'on appelle dessert, d'accord? Donc, c'est cet afikoman, le goût de l'afikoman qu'on garde, le goût de la matzah qu'on garde, c'est pour ça qu'on ne mange pas après l'afikoman. Mais on peut prendre, on peut boire de l'eau ou éventuellement du thé, les choses qui n'enlèvent pas vraiment le goût. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit au chacham. On lui donne toutes les halakhot. Donc on voit que raconter les halakhot, parler des halakhot, c'est une façon de s'acquitter de Sipur Yetziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte. Donc, on a vu que le pshat, simplement, de la mitzvah de la nuit, c'est raconter d'Afka sous forme de sipour. Mais voilà, dans la Haggadah du Rambam, il dit « Maaseh b'Rabbi Eliezer » et tous les autres, Rabbi Yoshua, etc., « Shayu Mesumim ben Nebrak » Vayu mesaprin biitziat mitzraim koloto alaila. Et là-dessus, le Rambam dit, Amar lahen, Rabbi Elazar ben Azaria, Reanik ben Shivim Shana, Velozachit Shtehamer Itziat Mitzraim Balelot. C'est-à-dire, le Rambam, il a lié les deux. Il a dit, il racontait la sortie d'Égypte, et puis, ils étaient là, et dans le semble-t-il, dans le courant du récit de la sortie d'Égypte, Rabbi Elazar, El Manazaré, il racontait, mais moi je voulais obtenir qu'on dise le troisième paragraphe du chemin, etc. Donc on voit quoi? On voit que dans cette nuit de Pessah, où ils étaient là, chez Rabbi Akiva, Bnei Brak, tous attablés, on a discuté quoi? On a discuté... Est-ce qu'on dit le troisième paragraphe du Shema ou pas? Or ça c'est la Zechira, ça c'est pas le Sipour, ça c'est le souvenir de la sortie d'Égypte. Donc on voit clairement ici que cette halakha-là, elle a à voir avec les halakhot de Pessah. Sinon, pourquoi on nous l'amène comme un des moments de du Sipour Yetziat Mitzrayim? C'est-à-dire une façon d'accomplir le kol amarbé le saper, plus on en raconte, mieux ça vaut. Mais le Rambam, donc d'après ça on voit qu'il pense que la mitzvah de Srira, c'est une mitzvah pour elle-même, la mitzvah de Sipur, c'est une mitzvah pour elle-même, et malgré tout, que ce soit deux mitzvot, malgré tout, on peut inclure la mitzvah, qui a semble-t-il rien à voir, de se souvenir, etc., dont on discute, dont Rabbi Elazar ben Azaria et Ben Zoma ont discuté. Et donc ça, il faut qu'on comprenne. Comment c'est possible? Pour Rambam, c'est clairement, dans Sefer HaMitzvot, il compte deux mitzvot différentes. mitzvah de Zechira, mitzvah de Sipur. Et néanmoins, la Srira, elle est rapportée dans sa Haggadah à lui. On a le sort de la Haggadah du Rambam. Dans sa Haggadah, il avait lié les deux. Ici, on voit combien les Chachamim ont donné d'importance à cette mitzvah. Cette mitzvah de Zikaron, de souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, pas seulement dans les halachot, pas seulement Pessah, Matzah ou Maror, font partie de la mitzvah de raconter Sipur Yetziat Mitzrayim, mais même la halacha de Zechira de tous les jours fait aussi partie de Kol HaMarbeh LeSaper, donc de la mitzvah de Sipur. Elle aussi, en quelque sorte, c'est une des façons de mettre en avant le récit de la sortie d'Égypte. Au point que tous les jours, on en parle. Ça veut dire que cette façon de regarder les choses, elle remet les choses complètement à l'envers. Ça veut dire la raison pour laquelle on en parle, on s'en souvient toutes les nuits, c'est une prolongation du Sipur Yetziat Mitzrayim. Les mitzvot qui ont lieu à un moment bien précis de l'année, elles ne sont pas confinées à ce moment-là. Normalement, elles doivent rayonner sur toute l'année. On ne sonne pas du shofar à Rosh Hashanah. D'accord ? Mais ce shofar, comme dit le Rambam, ça vient nous réveiller, etc. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dormir pendant tout le reste de l'année. On doit aussi se réveiller tous les jours, même quand on n'entend pas le shofar, si on veut. Simplement, on a mis un jour où le premier jour de l'année, on va t'en remplir les oreilles pour que tu n'oublies pas. Et c'est censé teinter à nos oreilles pendant tous les jours de l'année. Et ici aussi, la Sipur Yetziat Mitzrayim, on en fait un plat, vraiment, le soir du Seder, mais avec l'idée que ça doit diffuser toute l'année. Et comment est-ce que ça diffuse? Ça diffuse par le troisième paragraphe du chemin. Alors, c'est moins fort, c'est simplement une zechira, on va seulement s'en souvenir, il n'est pas nécessaire de le raconter, je n'ai pas besoin de le raconter à quelqu'un d'autre, etc. Ça n'a plus la forme question-réponse, etc., mais un souvenir. Le problème, c'est il y a beaucoup de mitzvot, presque toutes les mitzvot assez. C'est toujours Zecher li Yetziat Mitzrayim. D'accord ? Tout ce qu'on fait quasiment, c'est toujours souvenir de la sortie d'Égypte, souvenir de la sortie d'Égypte. Dans toutes sortes de mitzvot. Est-ce qu'on va dire que quand on s'occupe des halachot de Shabbat ou de Yom Tov, ça fait partie aussi du Sipur? Ça aussi, on va l'inclure dans le Sipur, dans le récit. Puisqu'on est en train d'inclure le fait de dire tous les soirs le troisième paragraphe du chemin, tu dis que c'est inclus dans le Sipur, c'est une façon de... D'accord. Alors, du coup, toutes les mitzvot dont on dit qu'elles sont Zecher les Yetziat Mitzrayim, est-ce qu'elles aussi, tu vas les inclure aussi comme une prolongation du Sipur Yetziat Mitzrayim? Un instant. Donc il faut dire que c'est spécifiquement cette mitzvah de se souvenir du jour en question, de souvenir de la sortie d'Égypte qu'on fait tous les jours, ça c'est une mitzvah particulière qui a à voir avec le souvenir de la sortie d'Égypte. Les autres mitzvot, qui effectivement sont des mitzvot entièrement pour elles-mêmes, en fait, c'est qu'il y a un supplément. C'est que la mitzvah, en plus de ce qu'elle est, la mitzvah de Shabbat, ou la mitzvah de Yom Tov, ou la mitzvah de Shofar, ou la mitzvah de Lulav, etc., qui sont toutes des mitzvot qui ont à voir avec la sortie d'Égypte, C'est la mention de la sortie d'Égypte, c'est un en plus. Ce n'est pas constitutif de la mitzvah en question. C'est-à-dire, s'occuper d'une mitzvah qui est un témoignage de la sortie, ça c'est inclus dans le Sipour. S'occuper d'une mitzvah qui est une mitzvah pour soi, mais qui effectivement nous dit quelque chose aussi de la sortie qu'on peut rattacher au fait qu'on était en Égypte et qu'on en est sorti, c'est autre chose. Ça, c'est, on ne peut quand même pas dire que ça c'est inclus dans le Sipour Yetziat Mitzrayim. Voilà, on va s'arrêter là. Oui, vous vouliez? Oui.
Donc tout ce qui se rattache à la pratique de l'histoire, ça a à voir avec le Sipour.
Oui, ça a à voir avec, mais ce n'est pas fondamental. C'est pas une partie constitutive de la mitzvah de Shabbat. Par exemple. Shabbat existait avant, et c'est tout que pour nous, dans le Shabbat d'ailleurs, pour nous il y a plusieurs mentions du Shabbat. Il y a le Shabbat de Bereshit qui fait référence à Bereshit et pas à la sortie d'Égypte. Il y a le Shabbat qui fait référence à la sortie d'Égypte. Il y a le Shabbat qui fait référence au temps messianique. Donc Shabbat est en rapport avec la sortie d'Égypte, mais c'est un des éléments, comme la création du monde et les temps messianiques sont un élément rattaché au Shabbat, mais c'est pas constitutif du Shabbat. C'est constitutif de notre libération, c'est possible. Et c'est vrai que la vraie sortie d'Égypte, c'est quand on a reçu la Torah. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les mitzvot de la Torah sont une partie du Sipour. Ça a à voir avec la sortie d'Égypte, mais pas dans le Sipour, pas dans le récit. Le Sipour, c'est il y a la sortie d'Égypte et puis il y a le Sipour de la sortie d'Égypte, le récit de la sortie d'Égypte. Oui. Je veux pas complètement, mais pas loin. Rabbi Eliezer, c'est un maître de. Il y avait aussi Rabbi Eliezer là-bas, c'est un maître de Rabbi Akiva. Il y a probablement une ou deux générations, mais c'est la même idée, quoi. On raconte la même chose. Vous parlez des gens qui font le tnaï.
Si on ne fait pas le tnaï, c'est juste avant l'oration, mais on l'a tout de suite en l'oration, si on attend, on n'a pas
le temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que c'est parce que vous faites trop à manger, alors le repas il prend trop de temps. Et donc.
Et si on fait le tnaï, alors.
Alors c'est encore plus court, parce que tu manges juste avant. Ton morceau de l'Afikoman, tu regardes que Hatzot est passé, deux minutes après, hop, continue le repas. Parce que maintenant on peut manger, puisqu'on a passé Hatzot. C'est ça le tnaï. Le tnaï, ça veut dire que si la halakha que je peux manger jusqu'à Hatzot, alors ce que j'ai mangé là maintenant, c'est pas une Afikoman, c'est un morceau de matzah. Et si on doit manger l'Afikoman avant Hatzot, alors c'est l'Afikoman. Mais dès après Hatzot, je peux manger ce que je veux. Je n'ai pas le mitzvah de garder le goût de la ficomane, puisque ce n'est plus le moment de la ficomane. Alors je peux manger. Donc c'est vrai que.
On garde pas le goût de la ficomane, finalement. Parce que si c'est Hatzot, alors c'est fini Hatzot.
Hein. Ouais, c'est...
Donc finalement, on n'a pas ce couleur, donc il reste en bouche.
De toute manière, le goût de la ficomane, c'est le goût des matzot. Hein. C'est difficile d'imaginer. À part ça, on peut très bien manger le dessert avant. Hein.
Oui,
on ne fait pas de dessert après la ficomane. Mais manger le dessert avant, c'est permis.
Mais manger avant, le corbeau de dessert, manger le dessert, tu manges le corbeau de dessert.
Eux, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, mais nous.
Non, je parle de eux.
Eux, ils mangeaient. Oui, je ne sais pas ce qu'ils mangeaient avant. Non, tu allais qu'on ne mangeait pas du tout. Le repas du Seder, ce n'était pas de manger le Korban Pessah. On mangeait, ça s'appelait une Chagiga. On mangeait de la viande de Yom Tov. A priori, les gens ne mangeaient pas le Korban Pessah à ce moment-là, dans le repas. À la fin du repas, on mangeait un kezait, un tout petit morceau du Korban Pessah. La grosseur d'une olive, et on le mangeait quand on est déjà rassasié. Alors, les gens qui n'ont pas du tout d'argent, etc., alors il y a peut-être des gens qui ont mangé le Korban Pessah, c'était ça leur repas du soir, mais normalement, on mange, le repas, c'est Chagigat Yudalet. Le 14, on faisait la shrita d'un animal qui s'appelait le Chagiga, c'est un Korban Shlamim, qu'on mangeait, c'était le repas du soir. Et à la fin de ce repas, quand on est bien rassasié, mais où il reste encore juste la place de manger, tu sais, il faut viser juste. Il y a juste la place de manger encore un kezaït de grillade. Comment on appelle ça, c'était grillé, hein. C'est un truc tunisien, quoi, grillé, à cœur, comme ça. Et on mangeait ça. Effectivement, ce goût-là, le goût de cette grillade, celui-là, on le gardait jusqu'au moment. Alors, jusqu'à Hatzot, ou bien jusqu'au matin. A priori, il avait un autre goût que le reste de la viande. Tandis que chez nous, avec notre truc de... On ne peut pas manger les matzot qui ont un autre goût. Enfin, on pourrait manger d'autres matzot, manger le soir du céder des matzot, je sais pas, à l'avoine, et puis après, manger la ficomane avec des matzot au blé, vous aurez un autre goût. Bon, je pense avoir jamais entendu que personne fasse ça.
Mais donc, il refait ça, on faisait quand la shrita du Korban Pessah et du Korban Chagiga.
Oui.